Jules Verne, sans dessus-dessous, chapitre 5. Et d'abord, peut-on admettre qu'il y ait des houillères près du pôle Nord? Telle fut la première question qui se présenta à l'esprit des gens doués de quelque logique. Pourquoi y aurait-il des gisements de houille aux environs du pôle? Dirent les uns. Pourquoi n'en y aurait-il pas? Répondirent les autres. On le sait, les couches de charbon qui sont répandues sur de nombreux points de la surface du globe abondent en diverses contrées de l'Europe. Quant aux deux Amériques, elles en possèdent de considérables, et peut-être les États-Unis en sont-ils le plus richement pourvus. Ces couches ne manquent d'ailleurs ni à l'Afrique, ni à l'Asie, ni à l'Océanie. À mesure que la reconnaissance des territoires du globe est poussée plus avant, on découvre de ces gisements à tous les états géologiques, l'anthracite dans les terrains les plus anciens, la houille dans les terrains carbonifères supérieurs, le stipite dans les terrains secondaires, le lignite dans les terrains tertiaires. Le combustible minéral ne fera pas défaut avant un temps qui se chiffre par des centaines d'années. Et pourtant, l'extraction du charbon, dont l'Angleterre produit à elle seule 160 millions de tonnes, est annuellement de 400 millions de tonnes dans le monde entier. Or, cette consommation ne semble pas devoir cesser de s'accroître avec les besoins de l'industrie qui vont toujours en s'augmentant. Que l'électricité se substitue à la vapeur comme force motrice, ce sera toujours une dépense égale de houille pour la production de cette force. L'estomac industriel ne vit que de charbon. Il ne mange pas autre chose. L'industrie est un animal carbonivore. Il faut bien le nourrir. Et puis, ce charbon, ce n'est pas seulement un combustible. C'est aussi la substance tellurique dont la science tire actuellement le plus de produits et de sous-produits pour tant d'usages divers. Avec les transformations qu'il subit dans les creusets du laboratoire, on peut teindre, sucrer, aromatiser, vaporiser, purifier, chauffer, éclairer, orner en produisant du diamant. Il est aussi utile que le fer, il l'est même plus. Très heureusement, ce dernier métal, il n'est pas à craindre que l'on puisse jamais l'épuiser. C'est la composition même du globe terrestre. En réalité, la Terre doit être considérée comme une masse de fer, plus ou moins carburée, à l'état de fluidité ignée, recouverte de silicates liquides, sorte de laitier que surmontent les roches solides et l'eau. Les autres métaux, aussi bien que l'eau et la pierre, n'entrent que pour une part extrêmement réduite dans la composition de notre sphéroïde. Mais si la consommation du fer est assurée jusqu'à la fin des siècles, celle de la houille ne l'est pas. Loin de là. Les gens avisés qui se préoccupent de l'avenir, même quand ils se chiffrent par plusieurs centaines d'années, doivent donc rechercher les charbonnages partout où la prévoyante nature les a formés aux époques géologiques. « Parfait !» répondaient les opposants. Et aux États-Unis comme ailleurs, ils se rencontrent des gens qui, par envie ou haine, aiment à dénigrer, sans compter ceux qui contredisent pour le plaisir de contredire. « Parfait !» disaient ses opposants. « Mais pourquoi y aurait-il du charbon au pôle Nord ?» Pourquoi ? Répondaient les partisans du président Barbicane. Parce que, très vraisemblablement, à l'époque des formations géologiques, le volume du soleil était tel, d'après la théorie de M. Blandet, que la différence de température de l'équateur et des pôles n'était pas appréciable. Alors, d'immenses forêts couvraient les régions septentrionales du globe, bien avant l'apparition de l'homme, lorsque notre planète était soumise à l'action permanente de la chaleur et de l'humidité. Et c'est ce que les journaux, les revues, les magazines, à la dévotion de la société, établissaient dans 1000 articles variés, tantôt sous la forme plaisante, tantôt sous la forme scientifique. Or, ces forêts enlisaient autant des énormes convulsions qui ébranlaient le globe avant qu'il n'eût pris son assise définitive, avaient certainement dû se transformer en houillères sous l'action du temps, des eaux et de la chaleur interne. Et donc rien de plus admissible que cette hypothèse, d'après laquelle le domaine polaire serait riche en gisements de houille, prêts à s'ouvrir sous la rivelaine du mineur. De plus, il y avait des faits indéniables. Ces esprits positifs, qui ne veulent point tabler sur de simples probabilités, ne pouvaient les mettre en doute, et ils étaient de nature à autoriser la recherche des différentes variétés de charbon à la surface des régions boréales. Et c'est là précisément ce dont le major Donellan et son secrétaire s'entretenaient ensemble quelques jours après dans le plus sombre recoin de la taverne des Two Friends. Hé, disait Dean to Drink, est-ce que ce Barbicane, que Berry pend un jour, aurait raison? C'est probable, répondit le major Donellan. Et j'ajouterai même que cela doit être certain. Mais alors il y aurait des fortunes à gagner en exploitant les régions polaires.
Assurément, répondit le major. Si l'Amérique du Nord possède de vastes gisements de combustible minéral, si on en signale fréquemment de nouveaux, il n'est pas douteux qu'il en reste encore de très importants à découvrir, monsieur To Drink. Or, les terres arctiques paraissent être une annexe de ce continent américain, identité de formation et d'aspect. Plus particulièrement, le Groenland est un prolongement du Nouveau Monde, et il est certain que le Groenland tient à l'Amérique, comme une tête de cheval dont il a la forme tient au corps de l'animal, fit observer le secrétaire du major Donellan.
J'ajoute, reprit celui-ci, que lors de ses explorations sur le territoire groenlandais, le professeur Nordenskjold a reconnu des formations sédimentaires constituées par des grès et des schistes, avec des intercalations de lignite qui renferment une quantité considérable de plantes fossiles. Rien que dans le district de Diskou, le Danois Toenstrup a reconnu 71 gisements où abondent les empreintes végétales, indiscutables, vestiges de cette puissante végétation qui s'est groupée autrefois avec une extraordinaire intensité autour de l'axe polaire.
Mais plus haut, demanda Dean To Drink.
Plus haut, ou plus loin, dans la direction du nord, répliqua le major. La présence de la houille s'est affirmée matériellement et il semble qu'il n'y a qu'à se baisser pour en prendre. Donc, si le charbon est ainsi répandu à la surface de ces contrées, ne peut-on en conclure presque avec certitude que les gisements s'enfoncent jusque dans les profondeurs de la croûte terrestre?
Il avait raison, le major Donellan. Comme il connaissait à fond la question des formations géologiques au pôle boréal, c'était là ce qui faisait de lui le plus irritable de tous les Anglais en cette circonstance. Et peut-être eût-il longtemps parlé sur ce sujet s'il ne se fût aperçu que les habitués de la taverne cherchaient à l'écouter. Aussi Dean To Drink et lui jugèrent-ils prudent de se tenir sur la réserve après que le dit To Drink eût fait cette dernière observation.
« N'êtes-vous pas surpris d'une chose, Major Donellan ?»«
Et de laquelle ?»
C'est que dans cette affaire, où l'on devait s'attendre à voir figurer des ingénieurs, ou tout au moins des navigateurs, puisqu'il s'agit de Paul et de ses houillères, ce soit des artilleurs qui la dirigent.
« Juste, répondit le major, et cela est bien fait pour surprendre. »
Cependant, chaque matin, les journaux revenaient à la rescousse à propos de ces gisements.
« Des gisements, et lesquels ?» demanda le Pall Mall Gazette dans des articles furibonds, inspiré par le haut commerce anglais qui déblatérait contre les arguments de la North Polar Practical Association.
Lesquels, répondirent les rédacteurs du Daily News de Charleston, partisans déterminés du président Barbicane.
Mais tout d'abord ceux qui ont été reconnus par le capitaine Nares en 1875-1876, sur la limite du 82e degré de latitude, en même temps que des strates qui indiquent l'existence d'une flore miocène riche en peupliers, hêtres, viornes, noisetiers et conifères.
Et en 1881-1884, ajoutait le chroniqueur scientifique du New York Witness, durant l'expédition du lieutenant Greely à la baie de Lady Franklin, une couche de charbon n'a-t-elle pas été découverte par nos nationaux, à peu de distance du Fort Conger, à la crique Watercourse? Et le docteur Paville n'a-t-il pas pu soutenir avec raison que ces contrées ne sont point dépourvues de dépôts carbonifères, vraisemblablement destinés par la prévoyante nature à combattre un jour le froid de ces régions désolées.
On le comprend, lorsque des faits aussi probants étaient cités sous l'autorité des hardis découvreurs américains, les adversaires du président Barbicane ne savaient plus que répondre. Aussi, les partisans du « pourquoi y en aurait-il » des gisements commençaient à baisser le pavillon devant les partisans du « pourquoi n'y en aurait-il pas ». Oui, il y en avait probablement de très considérables. Le sol circumpolaire, recelé des masses du précieux combustible, précisément enfoui dans les entrailles de ces régions où la végétation fut autrefois luxuriante. Mais si le terrain leur manquait sur la question des houillères, dont l'existence n'était plus douteuse au sein des contrées arctiques, les détracteurs prenaient leur revanche en examinant la question sous un autre aspect.
« Soit, dit un jour le major Donellan, lors d'une discussion orale qu'il provoqua dans la salle même du Gun Club et au cours de laquelle il interpella le président Barbicane d'homme à homme.
« Soit, je l'admets, je l'affirme même, il y a des houillères dans le domaine acquis par votre société, mais allez donc les exploiter. »
« C'est ce que nous ferons, répondit tranquillement M.P. Barbicane. Dépassez donc le 84e parallèle, au-delà duquel aucun explorateur n'a pu s'élever encore.
Nous le dépasserons.
Atteignez donc le pôle même.
Nous l'atteindrons.
Et à entendre le président du Gun Club répondre avec tant de sang-froid, avec tant d'assurance, à voir cette opinion si hautement, si nettement affirmée, les plus obstinés se déclaraient hésitants. Ils se sentaient en présence d'un homme qui n'avait rien perdu de ses qualités d'autrefois, calme, froid, d'un esprit éminemment sérieux et concentré, exact comme un chronomètre, aventureux mais apportant des idées pratiques jusque dans ses entreprises les plus téméraires. Si le major Donellan avait une furieuse envie d'étrangler son adversaire, on peut en croire ceux qui ont approché cet estimable mais tempétueux gentleman. Bah, il était solide, le président Barbicane, moralement et physiquement, ayant un grand tirant d'eau, pour employer une métaphore de Napoléon, et par suite capable de tenir contre vents et marées. Ses ennemis, ses rivaux, ses envieux ne le savaient que trop. Toutefois, comme on ne peut empêcher les mauvais plaisants de se répandre en mauvaises plaisanteries, ce fut sous cette forme que l'irritation se déchaîna contre la nouvelle société. On prêta au président du Gun Club les projets les plus saugrenus. La caricature s'en mêla, surtout en Europe et plus particulièrement dans le Royaume-Uni, qui ne pouvait digérer son insuccès lors de cette bataille où les dollars avaient vaincu les pounds sterlings. Ah, ce Yankee avait affirmé qu'il atteindrait le pôle boréal. Ah, il mettait le pied là où aucun être humain ne l'avait pu mettre encore. Ah, il planterait le pavillon des États-Unis sur le seul point du globe terrestre qui reste éternellement immobile lorsque les autres sont emportés dans le mouvement diurne. Et alors les caricaturistes de se donner libre carrière. Aux vitrines des principaux libraires et des kiosques des grandes villes de l'Europe, aussi bien que dans les importantes cités de la Confédération, ce pays libre par excellence, apparaissaient croquis et dessins montrant le président Barbicane à la recherche des moyens les plus extravagants pour atteindre le pôle. Ici, l'audacieux Américain, aidé de tous les membres du Gun Club, la pioche à la main, creusait un tunnel sous-marin à travers la masse des glaces immergées depuis les premières banquises jusqu'au 90e degré de latitude septentrionale afin de déboucher à la pointe même de l'axe. Là, M.P. Barbicane, accompagné de J.T. Maston, très ressemblant, et du capitaine Nicholl, descendait en ballon sur ce lieu tant désiré et après une tentative effrayante au prix de 1000 dangers, tous trois conquéraient un morceau de charbon pesant une demi-livre. C'était tout ce que contenait le fameux gisement des régions circumpolaires. On croquait aussi dans un numéro du Punch, journal anglais, J.T. Maston, non moins visé que son chef par les caricaturistes. Après avoir été saisi en vertu de l'attraction du pôle magnétique, le secrétaire du Gun Club était irrésistiblement rivé au sol par son crochet de métal. Mentionnons à ce propos que le célèbre calculateur était d'un tempérament trop vif pour prendre par son côté risible cette plaisanterie qu'il attaquait dans sa conformation personnelle. Il en fut extrêmement indigné, et Mrs. Evangelina Scorbitt, on l'imagine aisément, ne fut pas la dernière à partager sa juste indignation. Un autre croquis dans la lanterne magique de Bruxelles représentait M.P. Barbicane et les membres du conseil d'administration de la société opérant au milieu des flammes comme autant d'incombustibles salamandres. Pour fondre les glaces de l'océan paléochristique, n'avait-il pas eu l'idée de répandre à sa surface toute une mer d'alcool, puis d'enflammer cette mer, ce qui convertissait le bassin polaire en un immense bol de punch. Et, jouant sur ce mot « punch », le dessinateur belge n'avait-il pas poussé l'irrévérence jusqu'à représenter le président du Gun Club sous la figure d'un ridicule polichinelle ? Mais de toutes ces caricatures, celle qui obtint le plus de succès fut publiée par le journal français Charivari, sous la signature du dessinateur Stop. Dans un estomac de baleine, confortablement meublé et capitonné, M.P. Barbicane et J.T. Maston, attablés, jouaient aux échecs en attendant leur arrivée à bon port. Nouveau Jonas, le président et son secrétaire n'avaient pas hésité à se faire avaler par un énorme mammifère marin, et c'était par ce nouveau mode de locomotion, après avoir passé sous les banquises, qu'il comptait atteindre l'inaccessible pôle du globe. Au fond, le flegmatique directeur de la Société Nouvelle s'inquiétait peu de cette intempérance de plumes et de crayons. Il laissait dire, chanter, parodier, caricaturer, il n'en poursuivait pas moins son œuvre. En effet, après décision prise en conseil, la société définitivement maîtresse d'exploiter le domaine polaire, dont la concession lui avait été attribuée par le gouvernement fédéral, venait de faire appel à une souscription publique pour la somme de 15 millions de dollars. Eh bien, tel était le crédit de Barbicane & Co. que les souscripteurs affluèrent. Mais il faut bien le dire, ils appartenaient en presque totalité aux 38 États de la Confédération. « Tant mieux !» s'écrièrent les partisans de la North Polar Practical Association. « L'œuvre n'en sera que plus américaine !» Bref, la surface que présentait Barbicane & Co. était si bien établie, les spéculateurs croyaient avec tant de ténacité à la réalisation de ces promesses industrielles, ils admettaient si imperturbablement l'existence des houillères du pôle boréal et la possibilité de les exploiter, que le capital de la nouvelle société fut souscrit 3 fois. Les souscriptions durent donc être réduites des 2/3 et à la date du 16 décembre, le capital social fut définitivement constitué par un encaissement de 15 millions de dollars. C'était environ 3 fois plus que la somme souscrite au profit du Gun Club lors de la grande expérience du projectile envoyé de la Terre à la Lune.